ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir avec Paul. Je ne donne pas votre nom de famille parce que vous êtes aumônier de prison, mais vous avez accepté mon invitation. Vous êtes aussi diacre du diocèse de Toulouse. Vous avez été longtemps dans votre vie professionnelle ingénieur. Vous êtes grand-père avec plein d'autres qualités. Merci d'avoir accueilli mon invitation en cette semaine sainte, en cette semaine de Pâques.
Merci de me recevoir à votre micro.
J'ai l'habitude de demander à mes invités dans cette émission catholique qui s'adresse à toutes sortes de personnes de toute conviction, d'où vient votre foi ? D'où vient, quand vous étiez petit, votre famille, je crois que vous étiez du côté de l'Alsace ?
Je suis né à Strasbourg, d'une famille, disons, ouvrière, voilà, dans le quartier de Cronenbourg. Là où on brassait la bière du même nom. Et donc, j'ai reçu une éducation religieuse, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, mais je dirais aussi de conventionnel. En ce sens que, à cette époque-là, dans les années 50, tout le monde allait soit au catéchisme pour les catholiques, soit à la formation protestante, puisque en Alsace, il y a environ 30% de personnes de confession protestante, essentiellement luthérienne. Et dans ce diocèse de Strasbourg, concordataire, eh bien le catéchisme, quand j'étais petit, se faisait à l'école.
Ça nous ramène à une des questions que je pose habituellement, c'est quoi la laïcité ? Et effectivement, nous aurons l'occasion d'en revenir. Mais quand on dit traditionnel, chez les catholiques, il y a les messalisants et les pascalisants. Il y a ceux qui vont qu'une ou deux fois à l'église dans l'année, et puis il y a ceux qui y vont toutes les semaines. Donc, et puis aussi, il y a l'intensité du rite. Est-ce qu'on fait la prière dans le foyer, à la maison, ou seulement lorsqu'on va à l'église?
Alors, dans ma famille, on m'avait appris les prières, donc le Notre Père, le Je vous salue Marie. Quand j'étais petit, mais vraiment petit, je faisais la prière du soir. Après, c'était la messe dominicale. On était très fidèles à la messe dominicale. Mais au fur et à mesure, mon père, à cause, je pense, de ses engagements syndicaux, il était à la CGT, cheminot, s'est éloigné de la foi et n'allait plus à l'église. Donc moi, j'allais à ce qu'on appelait la messe des enfants, puisqu'il y avait une messe pour les enfants à 11h le dimanche, alors que les adultes allaient à la grand-messe, qui était à 9h30. Donc on n'allait pas à la messe en famille. Et puis j'ai continué à suivre l'enseignement religieux une fois que j'étais au collège et au lycée. Et puis j'ai perdu la foi, comme ça arrive souvent. Quand je suis venu à Toulouse pour mes études, j'ai quand même continué à aller à la messe tous les dimanches. Et je crois que c'est ce qui m'a sauvé, effectivement. Et puis j'ai retrouvé la foi, voilà.
Pour être ingénieur au CNES.
Oui, alors je suis venu à Toulouse un peu par hasard, parce que c'est mon métier qui m'a mené à Toulouse. Mon épouse et moi, nous avons fondé une famille, nous avons 4 enfants, nous avons maintenant 12 petits-enfants. Et puis je suis à la retraite depuis une dizaine d'années. Je suis devenu diacre un peu par accident.
C'est tout simplement. Un appel.
Parce que c'est un diacre qui est maintenant décédé, qui était sur notre paroisse, et qui un jour me dit, voilà, on aimerait vous rencontrer, mon épouse et moi. Donc on y est allé. Et puis, il m'a demandé au cours de cet entretien, est-ce que tu ne voudrais pas devenir diacre ? Alors, diaconat, je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis, on lui a dit, mon épouse et moi, qu'on allait réfléchir. Donc, on s'est donné 3 semaines de réflexion. Et puis, on a dit d'accord pour voir ce que c'est. Donc, on s'est engagé dans le chemin qui, au bout de 7 années, dont 2 ans de discernement, conduit au diaconat permanent. Je veux dire, mon épouse a été un peu surprise et n'a pas très bien pris cet appel.
Pourtant, elle fait du catéchisme dans la paroisse.
Oui, mais justement, parce qu'elle était, elle était extrêmement active sur la paroisse, alors que moi, étant pris par mes activités professionnelles et autres, j'étais présent. J'étais au conseil de pastoral, mais sans plus. Et ça a été pour elle un choc. Je pense d'ailleurs que ça peut être un choc pour beaucoup d'épouses de diacres, de découvrir que... un appel se dessine pour leur mari, voilà.
Et se vit à deux, dans la mesure où tous les échanges qui sont faits...
Ce qui est fait, et c'est bien, je crois, c'est que dans le temps de discernement et puis le temps de formation, les épouses sont présentes, elles suivent le discernement, c'est une démarche de couple, et c'est la même chose pour la formation. Elles sont présentes. Et d'ailleurs, le jour de l'ordination, elles doivent donner en public leur consentement à ce que leur mari puisse devenir diacre. Si le consentement n'est pas reçu, l'ordination serait frappée de nullité.
C'est pas seulement une question de foi au niveau de l'intellect, c'est aussi un engagement, oui. Beaucoup de temps, oui. Passé au service des autres. Alors, je vous avais posé la question hors antenne, qu'est-ce qui vous semble le plus important pour vous dans cette fonction ecclésiale? Mais...
Alors, c'est un petit peu paradoxal, mais je pense que le diaconat m'a sauvé d'un certain conformisme dans lequel j'aurais pu tomber. Une fois venu le temps de la retraite, tout simplement parce que j'ai été ordonné à peu près au moment où je suis parti à la retraite professionnelle. Donc c'est une vocation tardive, le diaconat dans mon cas. Et en fait, le diacre, une fois qu'il est ordonné diacre, ne s'appartient plus vraiment. On est ordonné, le terme est bien choisi. Je rappelle que c'est le premier degré dans le sacrement de l'ordre qui en comporte trois. Il y a le diaconat, il y a le sacerdoce, donc les prêtres. Et puis il y a l'épiscopat, les évêques. Et en fait, celui qui a la plénitude du sacrement de l'ordre, c'est l'évêque.
Voilà. Qui délègue ensuite au niveau des paroisses.
Voilà, oui. Alors chaque diacre, une fois ordonné, reçoit une lettre de mission où il découvre finalement ce à quoi il est appelé dans le cadre de sa mission diaconale. Alors, j'avais vu l'archevêque, Mgr Le Gall, 3 mois avant mon ordination, et je n'avais personnellement pas du tout réfléchi au genre de mission que je pourrais avoir. Et puis l'archevêque me dit, écoutez, on a pensé à la prison pour vous. Et comme je n'avais pas de raison de dire non, j'ai dit oui. Et donc, c'est comme cela que je suis devenu aumônier de prison.
Alors, c'est tout un autre pan de votre témoignage, de votre foi, de vos engagements. Mais le côté sociologue que je suis réagit à la notion de conformisme. Il y a des bruits qui courent dans l'Église, qu'il y a des diacres qui seraient encore plus cléricaux que certains prêtres traditionnels. Je mets plein de guillemets et nous allons bien sûr aborder cette question dans la deuxième partie de l'émission. Non. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir apporté... un chant magnifique en ce temps de Pâques, c'est le Stabat Mater.
Alors c'est le Stabat Mater d'un musicien du XVIIe siècle, Marc-Antoine Charpentier. Voilà. Il a composé ce Stabat Mater pour des religieuses. Et on a de bonnes raisons de penser que ces religieuses, c'était les religieuses de l'abbaye de Port-Royal.
Et donc c'est tout le courant janséniste et toute la guerre des religions,
voilà.
Et c'est ça un débat tout de suite après que Christophe nous aura diffusé ce beau chant à l'honneur de Marie Stabat Mater, n'est-ce pas, qui est debout au pied de la croix.
Oui.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir avec Paul, vous êtes ancien ingénieur, aumônier de prison et diacre du diocèse de Toulouse. Le chant du Stabat Mater, c'est Marie au pied de la croix, mise en musique, mise en poésie par Marc-Antoine Charpentier. Merci d'avoir apporté ce chant, ce choix de musique sacrée. Mais Marie a reçu son fils à descendre de la croix et nous sommes le lundi de la Semaine Sainte. Pour les chrétiens, Jésus est vivant.
Alors cette Semaine Sainte, c'est une semaine magnifique quand on y réfléchit un petit peu. C'est le sommet de l'année liturgique. C'est cette semaine qui nous permet de passer de la mort à la vie. Cette mort par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, pour le pardon de nos péchés, parce qu'on l'oublie trop souvent, et sa résurrection qui nous introduit, qui nous donne comme perspective la vie éternelle. Parce que Jésus, une fois ressuscité par le Père, est vivant pour l'éternité, et nous sommes appelés à vivre de cette vie en lui. J'aime beaucoup une expression qu'on trouve souvent dans la Bible, qui est comme une hantise, je crois, des Hébreux, mais qui doit être une hantise pour nous aussi aujourd'hui, c'est de désirer voir Dieu face à face. Constamment dans la Bible revient cette expression « Seigneur, ne détourne pas ton visage de moi, ne détourne pas ta face de moi » ou bien « Pourquoi, Seigneur, as-tu détourné ton visage ?» Et nous sommes appelés, effectivement, à voir Jésus, notre Seigneur, face à face. C'est ça, la béatitude éternelle.
Et à construire le royaume.
Alors,
la responsabilité du croyant.
C'est effectivement cette foi qui nous introduit dès ici-bas dans ce que Jésus appelle le royaume.
La Semaine Sainte, c'est aussi la semaine où on va appeler la fête de l'ordination. Il y a le jeudi saint, il y a le lundi saint autour de l'évêque.
Alors, le lundi saint dans notre diocèse, c'est le jour de la messe chrismale. C'est là que sont bénites et consacrées les huiles saintes. C'est un petit peu la fête des prêtres, puisqu'ils sont, et des diacres aussi, ils sont tous réunis auprès de l'archevêque.
Lui qui servira pour la confirmation.
Alors après, c'est l'huile des catéchumènes, c'est l'huile pour le Saint-Crème pour la confirmation. C'est l'huile des malades aussi. Donc ces huiles sont bénites et consacrées pour le Saint-Crème, au cours de la messe chrismale. Et après, sont distribuées dans les paroisses pour servir durant toute l'année.
La question justement de l'interprétation de ces symboles, c'est une incarnation qui passe par l'eau du baptême, par le cierge pascal et par cette huile.
Oui, parce que la religion catholique est une religion extrêmement réaliste et à cause de son réalisme précisément se fonde sur des symboles qui nous renvoient à une réalité englobante qui est la réalité du royaume.
Alors, je vous avais posé la question du conformisme, mais vous nous avez apporté aussi ce beau portrait de Mère Angélique. Et c'est tout Port-Royal, non seulement à travers la musique sacrée, mais aussi à travers ce conflit très dur, politiquement ou religieusement, oui. Où le roi Louis XIV a même décidé qu'on allait déterrer les tombes de ces religieuses de Port-Royal parce qu'il avait peur d'une hérésie. Oui. Et les jésuites, d'ailleurs, n'avaient peut-être pas la même position de tolérance qu'aujourd'hui.
C'est exact. En fait, je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire ici le procès du jansénisme. La raison pour laquelle j'ai souhaité évoquer la figure de la mère Angélique, c'est parce que, pour deux choses. La première, c'est que ça nous renvoie au XVIIe siècle, qui était un grand siècle. Grand parce que...
Les sermons à Notre-Dame de Paris.
Parce que les hommes, qui n'étaient pas meilleurs à cette époque-là que nous ne le sommes aujourd'hui, mais ils avaient quand même le souci du salut de leur âme. C'est une époque où la France était encore très largement chrétienne, même si déjà des tensions apparaissaient, notamment avec le protestantisme et ceux qu'on appelait à l'époque les libertins, c'est-à-dire les libres penseurs. Mère Angélique a été la réformatrice de Port-Royal elle a voulu que les religieuses de Port-Royal vivent une vie de religieuse digne de ce nom, c'est-à-dire entièrement tournée vers l'oraison, l'adoration du Saint-Sacrement aussi, et qu'elle soit finalement le témoignage que notre monde, ici-bas, ne tire pas sa finalité en lui-même, mais qu'il est, il est orienté vers le royaume de Dieu.
On voit aussi l'influence de Blaise Pascal.
Oui, tout à fait.
À la fois le Paris, bien sûr, que tout le monde connaît à cause des cours de philosophie, mais aussi ce silence des espaces infinis qui m'effraient, que ce soit nous allons dans Mars, où nous avons la peur du virus, donc les tout petits à l'intérieur de l'atome ou du virus, et l'immensité de l'espace. Je voudrais, à ces temps de pandémie, nous allons bientôt avoir fini notre entretien, Paul, mais évoquer la prière de Blaise Pascal. Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Et je crois qu'on peut aller chercher sur Internet, mais Seigneur, dont l'esprit est si bon et si doux en toutes choses, vous êtes tellement miséricordieux. Et puis, Blaise Pascal continue, ô Dieu, devant qui je dois rendre un compte exact de ma vie, la fin de ma vie, de ma santé, ainsi de suite. Mais justement, dites-nous les personnes que vous côtoyez en prison. C'est aussi un grand ministère, un appel que vous avez reçu.
C'est un appel que j'ai reçu par la bouche de l'archevêque. C'était donc au moment de mon ordination. Je voulais dire que c'est un ministère difficile, parce que la prison, d'une certaine manière, c'est un tombeau. Et puisque c'est en prison que l'on place des gens que l'on souhaite retrancher de la société, pour protéger la société, en réalité. Et chaque fois que je me rends à la prison, que ce soit la maison d'arrêt de Toulouse, où je ne vais plus trop maintenant, ou l'hôpital de Rangueil, et une unité de soins pour personnes détenues, je suis toujours pris d'une forme d'angoisse, parce que chaque fois je me demande, est-ce que, quand tu vas rencontrer des personnes détenues, dans leur cellule ou dans leur chambre d'hôpital, est-ce que tu seras effectivement porteur d'une parole de salut? Parce que, au fond, c'est cela que les personnes attendent quand nous, les aumôniers, nous les rencontrons dans leur cellule, dans leur chambre d'hôpital. Et très souvent, lorsque je prends congé d'une personne détenue à la suite d'une rencontre, d'un entretien, c'est généralement 45 minutes, une heure, le temps que je passe avec une personne, je lui demande souvent « Est-ce que vous me permettez de vous garder dans ma prière ?» Et les personnes me répondent avec un grand sourire « Oui, s'il vous plaît. » Et je veux dire, c'est le plus beau cadeau qu'elles me font.
C'est un signe aussi de l'amour que Dieu leur porte, mais ils ne sont pas entièrement déterminés par leur passé. Ils ne sont pas que l'acte qu'ils ont commis, crime ou délit.
Ce qui est étonnant quand on rencontre une personne détenue, c'est que on se dit, quand on enlève ce qui l'a mené en détention, c'est quelqu'un comme vous et moi.
En ce moment de Pâques, ce sont aussi des signes d'espérance, mais nous savons que au-delà de la foi, c'est dans le contact avec les autres que peut se faire ce passage de témoin.
Je crois que c'est ce que je ressens vraiment comme aumônier, que ce soit auprès de personnes détenues, aussi auprès de personnes aveugles, parce que je suis aumônier d'un groupe d'aveugles. C'est d'une certaine manière, l'aumônier doit se rendre transparent. Il doit être finalement comme une fenêtre ouverte sur un ailleurs pour les personnes que nous, les aumôniers, nous rencontrons.
J'aime bien la phrase de Blaise Pascal, encore lui, mais « Le gouffre du cœur humain ne peut être comblé que par Dieu. » Et il dit « S'il se vante, je l'abaisse, et s'il s'abaisse, je le vante.
Oui.
Toute cette sagesse de Blaise Pascal, qui était aussi un ingénieur, qui a fabriqué...
Oui, je connais son histoire.
au niveau des mathématiques et des probabilités. Mais nous sommes devant un mystère, celui du sens de la vie, le mystère aussi de ceux qui pensent que Jésus est vivant aujourd'hui. Et j'ai bien aimé, peut-être pour terminer notre entretien, quand vous disiez qu'il y a la messe des enfants et puis il y a la messe des adultes. Bon, eh bien, au niveau des paroisses, il y a aussi sans cesse ce débat de comment arriver à s'accepter les uns les autres dans les différences de nos rituels, dans les différences de nos manières d'aborder le sacré. Vous êtes devant une paroisse très diverse.
Oui, mais j'aurais tendance à dire que cela se passe bien et qu'il y a quand même une grande tolérance. Après, c'est vrai que sur notre paroisse, il y a plusieurs messes proposées le samedi soir et puis le dimanche. Et je dirais que chacun y trouve son compte et chaque messe, d'ailleurs, a sa tonalité.
Et puis, il y a plusieurs paroisses dans le diocèse. Avec des sensibilités également au niveau des ordres religieux.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, on peut dire Alléluia, merci à Dieu qui nous sauve par sa croix et par sa résurrection. Et je crois que vous aimez le psaume 66 qui dépasse des questions simplement de la confession des catholiques ou des protestants, mais qui nous renvoie aussi à la sagesse des juifs. Nous avions le week-end ou l'entretien de la semaine dernière le rabbin Naïm Doron qui a évoqué le psaume 91 mais un peu aussi ce psaume 66 que vous nous rappelez pour conclure.
Le psaume 66 est mon psaume préféré. Je vous le lis. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin se reconnut sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce,
qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore.
Amen. Et nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, pour cette semaine sainte qui est là. Merci Paul, merci à Christophe pour l'enregistrement.
Et très belle fête de Pâques à tous.